Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Feuilleten, adjoint à la mairie de Die, préposé aux finances, à l'économie et au tourisme et vice-président de la communauté de communes du DIWA en charge du tourisme et de l'économie. Bonjour Monsieur Feuilleten.
Bonjour.
Alors vous êtes venu ici pour nous parler du futur lotissement Chanqueras, dont les DIWA qui partent du Haut-DIWA ont pu constater que les travaux ont commencé. Alors avant même de se préoccuper de ce lotissement, qui sera disponible, vous allez nous dire quand, on pourrait peut-être faire un petit bilan de l'état du logement à Die, car vous ne l'ignorez sans doute pas, il n'est vraiment pas facile de trouver un logement à Die. En tout cas, les prix pratiqués sont dignes d'une grande ville. Alors, qu'avez-vous à dire sur le logement à Die ?
En tout cas, le constat que vous portez, il est juste. Il suffit de se balader dans les rues ou de chercher un logement à louer ou une maison à acheter. Et puis, on vérifie parfaitement ce que vous venez de dire. Moi j'illustrerai ça d'un exemple récent que j'ai rencontré. On a recruté des gens à l'office de tourisme et à la CCD. Aujourd'hui, ils sont tous logés dans une résidence de tourisme qui s'appelle le Vercors parce qu'ils ne trouvent pas de logement sur Die. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, c'est aussi concret. Alors, ça, on le retrouve assez facilement dans des chiffres peut-être plus globaux, alors qui, au-delà de même de cette pénurie, soulignent des caractéristiques de notre logement. Alors, en gros, à Die, la ville, hein, c'est 2900 logements. Là-dedans, il y a 2193 logements qui sont des résidences principales, soit 77% de l'ensemble, des résidences secondaires pour 362. Sachant que, au contraire de ce qu'on croit, ça représente 12,7%. C'est pas du tout anormal, parce que, à titre d'exemple, sur le territoire de la CCD, ce chiffre de résidences secondaires, il est de 36%. Donc, on n'est pas plombé par les résidences secondaires. À l'inverse, on a près de 300 logements qui sont en vacances, hein, soit près de 11% de l'ensemble, ce qui est plutôt un chiffre assez élevé. Alors, si on regarde le marché, on s'aperçoit que ce taux de vacances résulte principalement de la vétusteté des logements, et notamment en centre-ville. Hein. On peut faire aussi peut-être un petit point sur la manière dont ça se partage entre propriétaires et locataires. Bon, les propriétaires aujourd'hui, c'est 1217 logements sur les 2193 de résidences principales que j'évoquais, soit à peu près 55%. Et les locataires, c'est 41% de l'ensemble. Hein. On a un peu moins de propriétaires qu'ailleurs. Et on a un peu plus de locataires. Ça aussi, c'est une typologie dont il faut tenir compte quand on fait des projets. Et puis, donner, bien sûr, essentiel, qui va intéresser vos auditeurs, quelle est la proportion de logements sociaux, hein. Parmi les locataires, hein, puisque le logement social va concerner pour l'essentiel des locataires, on a 180 logements sociaux à Die, soit 8,2% de l'ensemble des logements en location. C'est pas beaucoup. En tout cas, c'est moins qu'ailleurs. Hein, donc ça veut dire que de ce point de vue-là, Die n'est pas très bien équipé en logement social. Donc ça sera, dans notre politique, je pense que vous allez me reposer la question, ça sera un axe important. Voilà. Et que je soulignerai.
Moi, je me permets de réagir tout de suite en évoquant cette barre HLM que l'ODH a cassé il y a à peu près 3-4 ans. Comment se fait-ce qu'alors qu'il y a un déficit de logements sociaux, on en vienne à casser des barres de HLM qui soient... Bon, je sais bien que l'ODH 26 est un propriétaire qui fait ce qu'elle veut de son bien. Néanmoins, la mairie de Die n'aurait-elle pas pu justement évoquer cette statistique dont vous me parliez pour dire, bah, écoutez, là, on va avoir un vrai problème.
Alors, moi, je dirais deux choses par rapport à cette remarque. D'abord, j'aime pas beaucoup porter des jugements sur ce qu'ont fait les mandatures précédentes. Ce que vous évoquez a été fait sous la mandature précédente, donc je n'aime pas beaucoup invoquer ce genre de choses. Mais pour avoir rencontré M. Villard, qui dirige le Drôme Aménagement Habitat, DH, je crois qu'à l'époque, on avait été un peu optimiste sur le démarrage de Chanqueras. C'est-à-dire que quand on a détruit cette barre, qui comportait, je crois, 20 logements sociaux, me semble-t-il, hein, de mémoire, hein, On pensait très rapidement, et d'ailleurs c'est ce qui avait été annoncé aux habitants d'ailleurs, hein, qu'une nouvelle offre allait leur être proposée à très court terme. Et je pense que c'est plus dans ce rythme-là qu'il faut chercher le diable s'il existe, que, à mon avis, dans les mauvaises intentions des uns et des autres, auxquelles je ne crois pas. Voilà.
Deuxième petite réflexion, d'après vos premiers dires, comment expliquer que des propriétaires de logements vétustes ne cherchent pas à remettre, suite à des travaux, ces biens sur le marché? Parce que ça coûte quand même quelque chose, hein, en matière de taxes foncières, d'avoir un logement inoccupé.
Alors ça coûte cher aux propriétaires, mais je considère que ça coûte cher à la collectivité, d'une manière plus générale. Avoir 300 logements qui ne sont pas habités, alors je ne dis pas que tous les logements sont habités, c'est impossible. Hein. Mais on peut estimer que sur ces 300 logements, 150 devraient être sur le marché, approximativement. Donc je dirais que moi, au-delà de la tentation qu'on a parfois de diaboliser les propriétaires, je dirais qu'il faut aussi que la collectivité s'organise pour leur proposer des dispositifs dans lesquels on peut les inciter à rénover leur logement et le remettre sur le marché. Hein. Et moi, je citerai juste le travail qu'on a en cours actuellement avec la communauté des communes du Diwa, où dans le cadre de ce qu'on appelle un plan local d'habitat, on cherche à dégager les propositions qui pourraient être faites aux propriétaires privés, propriétaires d'un logement vacant, qu'on a identifié. Hein, récemment, on a eu un fichier de ces gens-là. On veut leur proposer un dispositif qui ferait notamment rentrer en ligne de compte l'ANA, hein, qui est une administration qui aide, moyennant des conditions relatives aux loyers conventionnés, mais qui pourrait être, dans les mois, dans les années qui viennent, une forte incitation des propriétaires privés, notamment de centre-ville, de rénover leurs logements et de les remettre à disposition du marché pour améliorer l'offre locative notamment. Hein. Donc là aussi, sur ce sujet-là, plutôt inciter, plutôt promouvoir, plutôt proposer, plutôt imaginer des dispositifs, être créatif, c'est comme ça qu'à mon avis, sur le logement vétuste, on gagnera du terrain, on rénovera la ville. Voilà.
Mais vous avez cité la CCD. Je suppose que l'ampleur de cette tâche de faire en sorte d'améliorer la fluidité du marché du logement a dit peut-être dépasse les moyens de la simple mairie de Die, que vous devez impérativement travailler avec la communauté de communes. Quelle est votre latitude d'action? Vous avez parlé de créativité. Quels seraient ces moyens incitatifs un peu plus précisément? Parce que je sais qu'il y a des aides de l'État peut-être pour aider les propriétaires. Mais ça, c'est l'État qui propose. Qu'est-ce que vous, CCD et mairie de Die, avez comme moyens concrets?
Alors, si vous voulez, je crois d'abord que, première réponse à votre question, la ville de Die ne peut pas travailler sans la communauté de communes du Diwa, et j'allais dire inversement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, et dans le cadre des différentes réformes des collectivités territoriales qui ont été menées aujourd'hui, la communauté de communes, et à juste titre de mon point de vue, dispose de compétences, notamment en matière de logement. Donc ça, c'est incontournable. La ville de Die n'a pas la main tout seul. Donc, on doit travailler avec nos collègues de la communauté de communes et plus particulièrement les techniciens hein, qui, moi je le souligne, sont d'excellente qualité à la communauté de communes du Diwa. On doit travailler à l'élaboration d'une véritable stratégie par rapport à la vétusteté du logement sur Die, sachant qu'ils n'ont pas que cette préoccupation de la ville de Die. Hein, il y a aussi d'autres communes hein, dans le territoire. Et de ce point de vue-là, on s'est réunis à trois reprises. Quand on a parlé de Champs-Queyras, on s'est toujours dit « Oui, mais enfin, Champs-Queyras, il ne faut pas que ça soit une manière de vider le centre-ville. Hein. Il faut s'y préparer en relation avec ce projet de Champs-Queyras. Il faut préparer la réappropriation du centre-ville par les locataires et les propriétaires. Je veux dire que, je le rappelle, l'un des axes majeurs de notre politique à la ville de Die, c'est le centre-ville, la revitalisation du centre-ville. Ce n'est pas pour tout mettre en périphérie. Hein. Donc, de manière plus précise, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre? C'est un autre élément de votre question. Alors, d'abord des moyens humains. Même si spontanément on pense d'abord aux moyens financiers, d'abord des moyens humains. Ça, on a commencé à le faire au travers de ce groupe auquel s'est joint des techniciens de la CCD, nos techniciens de la mairie. hein, et quelques collègues politiques. Hein, voilà. Donc, on a commencé à y réfléchir. Et dans le cadre de ce que j'évoquais tout à l'heure, un plan local d'habitat, j'ai peut-être pas été assez précis quand je parle de l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Elle est donc financée par l'État. Et sa vocation première est justement de venir appuyer le propriétaire par des aides, hein, pour alléger pour le propriétaire la charge que cela représenterait, qui aujourd'hui est le point essentiel qui dissuade le propriétaire de rénover. Bon, sachant qu'en contrepartie, le propriétaire sera tenu pendant 10 années ou 9 années, j'ai plus le chiffre exact, de louer son logement à ce qu'on appelle des tarifs conventionnés. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en contrepartie de cette aide, l'État demandera au propriétaire de pratiquer des loyers qui sont des loyers proches de ce qu'on appelle les loyers modérés, des HLM. Voilà. Hein. Donc ça, c'est très concret. Après, on a encore un gros travail. On a fait un premier travail d'identification des propriétaires de logements vacants. Donc ce travail est terminé. Et il faut maintenant qu'on peaufine cette offre pour la proposer par courrier à tous les propriétaires. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez concret. À la fois, on a une phase de réflexion, mais on a déjà des actions d'engager quand même. Hein. Voilà.
Avez-vous une idée de ce que ça peut représenter comme aide, comme pourcentage du montant des travaux pour remettre en état ces logements, ce que peut proposer conjointement l'ANA et puis peut-être voir des aides locales?
Non, on ne l'a pas quantifié. On ne l'a pas quantifié parce que pour l'instant, la collectivité avance. J'allais dire que chaque dossier va se monter séparément. Et pour le coup, l'aide va devenir de l'État en fonction de chaque dossier de propriétaire. Donc, l'approche globale pour la collectivité, pour l'instant, ne se justifie pas dans la mesure où on n'est pas impacté par le coût. Mais, en tout cas, on suivra le projet. Peut-être une dimension que j'ai pas évoquée tout à l'heure, dans le cadre de cette rénovation, au-delà même de la fluidification du marché de la location notamment, c'est l'impact environnemental. Rénover des logements en centre-ville, et là je suis dans vos locaux et je mesure le travail en matière d'isolation, hein. Je pense que le centre-ville est un gouffre énergétique. Enfin, je suis sûr. Et au-delà de l'enjeu qu'on défend, il y a aussi cet enjeu-là. Pour la collectivité, ça sera un grand facteur d'économie, en plus de la fluidification du marché locatif. Voilà. Je voulais juste peut-être rajouter cette petite parenthèse.
Cela tombe bien que vous parliez d'efficacité énergétique parce que, vous savez, on a parlé dans l'actualité nationale, voire internationale, de la COP21, de la transition énergétique. On est vraiment dans l'air du temps, je dirais. Or, il se trouve, je vais me livrer un tantinet, c'est que je viens d'aménager à Die depuis hier même, dans un beau logement qui a quand même quelques petits problèmes. J'en citerai deux. J'ai des fenêtres à simple vitrage et des convecteurs antiques. Donc, je vous laisse imaginer ma facture de chauffage. Est-ce qu'en tant que locataire, y aurait-il des moyens d'inciter le propriétaire pour son propre bien et pour le bien du locataire à faire quelque chose pour aller dans le sens de cette transition énergétique et de l'allègement des factures de chacun?
Si on se réfère à la loi Allure, qui a donné de nouveaux pouvoirs aux locataires. Hein. Vous avez, alors d'abord, le propriétaire a l'obligation de vous délivrer un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Hein. Et le loyer doit correspondre au niveau de performance énergétique, c'est-à-dire, je m'explique, si vous avez des vieux convecteurs, même pas des radiants si je comprends bien, des vieux convecteurs, en plus simple vitrage, donc j'imagine, sans même parler sans doute des joints des fenêtres, on ne peut pas imaginer qu'on vous pratique le loyer d'un logement neuf. Hein. Ça, c'est déjà une première réflexion. Et si tel était le cas, le locataire, la loi propose au locataire la possibilité de demander au propriétaire de faire les travaux nécessaires. Ou de réajuster son loyer en conséquence. Donc le locataire a des moyens d'action qui lui est offert par la loi. Alors, néanmoins, hein, ça c'est la partie du locataire. Moi je rappelle que la collectivité doit aussi faire sa part de travail. Je la disais tout à l'heure. Il faut que tout ça converge. Il faut que tout ça converge pour le mieux-être des gens qui habitent leur logement, pour un meilleur respect de l'environnement, hein, pour une économie collective qui sera consacrée pour le coup peut-être à consommer et à profiter à nos commerçants, nos prestataires de services. Je veux dire, il y a un cercle vertueux dans toute cette action globale à laquelle nous, ville de Die, on doit concourir en relation avec la communauté des communes du Diois. Pour les locataires, moi je les invite à réexplorer la loi Allure et toutes les possibilités qui leur sont offertes. Voilà.
Pour en revenir à ce très faible taux de logements sociaux qu'on trouve sur Die, hein, vous avez parlé de 8 et des bananes à peu près. Comment expliqueriez-vous, sans jeter la pierre à vos prédécesseurs, car j'ai compris que ce n'était pas une bonne politique, qu'on en soit arrivé à un taux aussi bas a dit, alors que le niveau de l'emploi est relativement faible et donc un nombre de gens qui ont des faibles revenus assez important.
Alors, vous avez raison de le souligner. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès ou je ne sais trop quoi de tout ce qui a précédé. Et je serais bien mal passé parce que je ne connaissais pas les conditions de l'époque, je ne connaissais pas le contexte. Donc, moi, si vous voulez, tout ça, je me cantonnerais à constater que là où nous devrions avoir un taux de l'ordre de 12 à 13 % de logements sociaux.
N'y a-t-il pas une loi d'ailleurs qui l'oblige ?
Ouais, alors pas sur des petites villes comme la nôtre. Hein. Malgré tout, elle n'a pas la même rigueur. Hein. Donc on devrait avoir approximativement entre 100 et 150 logements sociaux supplémentaires si on voulait être dans la moyenne de ce qu'on trouve ailleurs. Hein. Alors, je voudrais juste dire que par rapport à ce chiffre, au miracle, la zone de Chanquéras va proposer 120 logements sociaux. Ou à caractère social. Les terrains sont en train de se préparer, on n'attend plus que les opérateurs sociaux, et pour le coup, bonne nouvelle, hein, puisqu'au printemps 2016, on parle de cette année, hein, DAH, Drôme Aménagement Habitat, attaque les travaux d'une première unité de 20 logements, de 22 logements, que disent, 22. Hein, et peut-être 8 en plus, hein, ils sont en train de réfléchir. Alors, sachant que moi, j'aimerais plus et plus vite, mais on est soumis à la programmation du département. Hein. C'est-à-dire que DH peut construire des logements sociaux, mais tout ça s'articule dans une programmation départementale qui relève du département. Donc, nous avons obtenu à coup sûr pour 2016 22 logements sociaux. Le permis de construire est délivré. Ça, vous voyez, c'est du concret, c'est de l'acte, ça. Le permis de construire a été délivré par le maire de Die. On a les plans, on a tout ça. C'est sur une parcelle qui sera en léger recul par rapport à la route. Ça sera un bâtiment de 22 logements avec une option peut-être de 8 logements supplémentaires. En 2017, même si ça ne concerne pas la zone de Chanquéras, est d'ores et déjà est programmé 21 logements sociaux sur un terrain de Pluviane où on va faire ce qu'on appelle une résidence intergénérationnelle. Hein ? Ça parle moins peut-être aux gens, mais c'est un projet qui avait été initié par nos prédécesseurs, dont nous avons honoré les engagements. Et là, c'est 21 logements qui sont concernés. Alors, par contre, c'est un logement plus orienté, pour moitié vers des jeunes, hein, notamment des jeunes qui viennent en stage, qui viennent en formation, ainsi de suite. Et puis pour une autre partie, des gens qui sont en précarité, pour l'autre moitié. Hein, c'est-à-dire des gens qui sont en rupture, qui sont en précarité. Donc vous voyez, c'est plus orienté, mais c'est des logements sociaux. Hein. Après, sur 2018, on est en train de travailler en relation avec DH et le département pour obtenir que ce cercle vertueux qui s'enclenche se poursuive. Mais l'idée pourrait être d'être sur un rythme de cet ordre-là, de 20 à 25 logements sociaux chaque année, principalement à Chanquéras. Un autre projet que nous avons en cours sur le logement social, c'est chez vous, ici, à l'espace Joseph Reynaud. Hein, ça nous a rapprochés à deux ou trois reprises. Hein, mais l'espace Joseph Reynaud, en relation avec la communauté de communes du Diois, avec comme maître d'œuvre Drôme Aménagement Habitat, va réaménager tout cet espace de 1500 m² au sol, dont vous occupez une partie aujourd'hui. D'une part, pour le pôle enfance, y faire une crèche, le réseau d'assistantes maternelles, le lieu d'accueil enfants-parents, et puis une petite salle de réunion et d'accueil associatif. Et pour le reste, sur approximativement 600 m², des logements sociaux de centre-ville. Combien ? À peu près 5. Ça reste... Ça reste encore à définir et à peaufiner. Ça sera à l'horizon 2019. De manière opérationnelle, les travaux, s'ils devaient démarrer, d'après ce que DAH nous dit, pourraient avoir lieu en 2019. Mais outre, si vous voulez, le logement social, c'est aussi, nous semble-t-il, en centre-ville, une belle opération qui pourrait avoir un caractère patrimonial intéressant. Donc vous voyez, un rattrapage à opérer. On commence à le rattraper cette année. On va, cette année, je le rappelais à M. Villard, le patron des âges, juste rattraper ce qu'on a détruit à Cocos, hein, que vous rappeliez tout à l'heure. Et puis après, on repart en flux positif. Voilà. Donc si on pouvait tenir ce rythme-là, et je l'espère, en tout cas, moi, je me battrai pour, on pourrait, d'ici 5 à 6 ans, avoir rattrapé une bonne partie de notre retard.
Alors, pour en revenir à Champ-Queyras, parce que c'est un vieux projet, hein, je crois que ça a été initié par Mme Bizoire, c'est un projet qui est assez ambitieux, et si je me rappelle bien une conversation que nous eûmes dans une rue de Die, ce projet dépendrait quand même des opérateurs privés qui se lanceraient et qui, par exemple, vous rappelez que c'est DH qui s'est engagé pour un 22 logements et peut-être avec une option de 8, et que vous attendriez en fait d'autres opérateurs privés pour que vous puissiez proposer encore d'autres logements, si j'ai bien compris.
Moi, je rappellerai que nos prédécesseurs, et vous avez raison de le rappeler, hein, de nombreux projets ont été initiés par ceux qui nous ont précédés. Hein. Et même si chaque mandature y a apporté une touche plus particulière, néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est des projets structurants et qui bénéficient de ce qu'on appelle la continuité républicaine. Voilà. Alors ça, je crois que c'est important de le dire. Les premiers travaux ont commencé sous la mandature d'Isabelle Bizoire. Ils ont été poursuivis sous la mandature de Georges Berginat et nous les avons poursuivis. Voilà. Et nous sommes, en ce qui nous concerne, dans la phase opérationnelle, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, il suffit de passer devant cette zone pour voir que les bulldozers sont à l'œuvre, qu'on est en train de faire ce qu'on appelle la voirie, les réseaux et la distribution. Ah, donc ça, c'est en cours. De mémoire, on devrait atterrir, me semble-t-il, sur la première tranche, me semble-t-il, vers avril. En tout cas, c'est parti. Hein. Sur l'autre aspect que vous évoquez, je rappelle que l'objectif de ce projet, c'est 270 logements qui se répartissent entre 120 logements à caractère social, et ce chiffre miraculeux correspond à notre déficit, et pour le reste, des opérateurs privés. Alors, je crois que c'est important de souligner qu'il y a, je pense, deux valeurs qui ont guidé ce projet au travers de nos prédécesseurs. La première, c'était la mixité. On va pas faire on va pas retomber dans les erreurs du passé de faire des ghettos sociaux. Enfin bon, la mixité. Je crois que c'est la mixité, une mixité sociale, la mixité intergénérationnelle. Voilà, on vit tous ensemble. Hein ? Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire que ce qui a guidé ce projet, c'est plutôt la verticalité que l'horizontalité, hein, dans un souci de meilleure occupation du foncier. Ne nous étalons pas qu'avec du pavillon, au point à égale surface de n'avoir 10 fois moins d'habitants, c'est travailler sur la verticalité acceptable, je veux dire, d'un point de vue urbanistique et humain, hein, qu'on soit clair. Hein.
C'est-à-dire combien d'étages maxi ?
Oh, bah là, deux maxi, hein. Ça c'est important. Donc, je pense que ce qui a guidé... D'ailleurs, hein, on n'était pas loin d'obtenir le label d'un éco-quartier, hein, qu'on soit clair.
Et pourquoi pas loin ? Pourquoi vous ne l'avez pas
obtenu ? Parce qu'on ne l'a pas visé, tout simplement, ce label. Néanmoins, pratiquement, j'allais dire que dans l'absolu, on pourrait y concourir. Je crois que c'est les types de constructions qui se feront qui pourraient finaliser le concept. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, hein, on a bénéficié, dans le cadre de BioVallée, d'une subvention du GPRA, du Grand Projet Rhône-Alpes. Elle était de l'ordre de 300 000, je crois qu'on va la consommer à hauteur de 200 000. Donc vous voyez, on avait été aussi quelque part, j'allais dire baptisé, hein, d'un point de vue environnemental, écologique. Quoi. Bon. Ça explique aussi le type de tarif qu'on va pratiquer, qui n'est pas sans poser des problèmes. Aujourd'hui, on ne facture pas le mètre carré terrain à ceux qui veulent nous acheter le terrain. On facture le mètre carré plancher. Et donc aujourd'hui, par exemple, le mètre carré plancher est proposé à 130 euros aux opérateurs sociaux et à 260 euros aux opérateurs privés. Voilà, ça c'est le tarif auquel on propose aujourd'hui nos parcelles. Hein. Pour être plus précis sur les opérateurs privés, On a largement parlé des opérateurs sociaux. On a lancé l'été dernier, un appel d'offres. Et il faut bien reconnaître que cet appel d'offres n'a pas soulevé l'enthousiasme des opérateurs privés. Ça, c'est un fait, il faut le reconnaître. Au point qu'aujourd'hui, on s'interroge pour voir comment on pourrait relancer cela. Bon. On a eu une touche avec un promoteur local, de la vallée de la Drôme, qui d'ailleurs est toujours en cours, de 33 logements, destinés principalement à des seniors. Mais pour l'instant, ce projet n'a pas abouti, donc j'en fais pas la publicité. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que, étrangement, je vais vous dire que je suis rassuré sur le logement social. Alors, moi, je suis rassuré parce que, quelque part, on est sur une logique à moyen terme, hein, qui est enclenchée, on sent qu'il y a une dynamique, on sent qu'il y a une volonté. On est un peu en panne sur l'aspect privé. Il va falloir être un peu imaginatif. Et là, c'est à la mairie de l'être.
Et qu'est-ce qui coince, en fait ?
Le prix.
260 euros mètre plancher, c'est trop cher pour les opérateurs privés.
Par exemple, si je prends l'opération que j'évoque, vous voulez, votre intention est bonne, elle est de dire, plutôt que de s'éparpiller sur le terrain, je préfère concentrer sur deux étages l'habitat. Bah oui, mais si vous faites deux étages, 33 logements, que vous le rapportez à 260 euros du mètre carré, vous tombez sur un prix de 575 000 euros. Quand vous le rapportez à 2500 mètres carrés, ça fait pour l'opérateur privé plus de 200 euros du mètre carré. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, on a besoin de mieux expliquer notre offre, surtout sensibiliser l'opérateur privé à ce qu'il achète un terrain, ce qu'on appelle purgé de tout recours de tiers. On a fait les fouilles archéologiques, on a obtenu l'accord des bâtiments de France, les VRD sont présentes. Voilà, donc on a besoin de travailler sur ce sujet-là pour, être plus séduisant pour les quelques opérateurs privés qui pourraient être intéressés. Et il y a une demande notamment de seniors pour ce type de logement. Voilà.
Alors, quand même, vous dites que ça coince au niveau des opérateurs privés. Néanmoins, DAH vous en propose 22 plus 8 en option. C'est quand même assez loin des 120 dont vous me parliez. Vous cherchez encore des opérateurs sociaux ?
Alors, surdit l'histoire, et puis moi j'avoue que les contacts, hein, on travaille avec DAH. Bon, il n'y a pas 100 opérateurs sociaux hein, dans la Drôme. Hein. Les plus connus, c'est DAH et puis SDH. Bon, on a rencontré SDH. Hein. Bon, l'idée n'est pas forcément de privilégier tel ou tel, mais on a historiquement un partenariat avec DH qui a toujours été positif. Hein. Et moi, j'avoue que les rencontres que j'ai eues avec eux ont toujours été très positives. Très positives. Donc, j'allais dire que pour l'instant, cette dynamique est enclenchée. On a d'ailleurs plusieurs projets en cours avec eux. La résidence intergénérationnelle, c'est eux. Hein. Si on devait faire, comme c'est notre volonté, la maison médicale, c'est avec eux qu'on la ferait. Donc, il y a un véritable partenariat historique et qui, de notre point de vue, ne justifie pas forcément que, pour l'instant, on les mette en concurrence. Hein ? Donc, moi, je dirais que pour l'instant, ils ont à la fois les possibilités, semble-t-il la volonté, de poursuivre avec nous pour... Alors, à vous réévoquer les 120 en objectif, hein, les 120 logements, mais encore une fois, si on tient ce rythme de 25 logements chaque année, alors là, 22, peut-être une année, enfin... Calculé en 5-6 ans, on a pratiquement comblé notre retard. Ce qui, dans ce domaine, n'est pas si mal. Hein. N'est pas si mal.
Oui, mais comme vous connaissez le proverbe, ne pas vendre la peau de l'ours, etc. Donc, pour l'instant, vous n'avez que 22 plus 8 et vous ambitionnez 120. Alors
22 plus 8 plus 21, je vous le rappelle.
Ah oui, d'accord.
En 2017, donc on est quand même sur un chiffre qui est très proche de 50 unités. Hein. Donc ça, c'est pas vendre la peau de l'ours, parce que tout ça, c'est enclenché. Ensuite, vous avez raison, et je pense que, en tout cas, j'espère que je fais pas de... J'espère être assez prudent dans mes propos. Il y a du conditionnel aussi. En tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté, elle est affirmée, elle s'est traduite dans les faits. Là, quand on va avoir un premier bâtiment de 22 logements sur la zone de Jean Kéras commencer à se construire, je m'excuse, c'est du concret. C'est du concret.
Mais alors, il vous revient de négocier avec DAH pour qu'il continue sur cette lancée ou...
Surtout avec le département. Surtout avec le département, parce que c'est le département qui fait la programmation. DAH, ils peuvent avoir la volonté, mais si on ne leur dit pas, voilà, vous avez tant de logements sociaux à faire, tant à Valence, ils auront bien nous aimer, ils ne pourront pas.
Donc c'est du lobbying auprès du département que vous devez faire.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et là, c'est enclenché aussi, vous.
Bien sûr, bien sûr.
Et vous avez bon espoir.
Écoutez, si je fais de la politique, c'est que j'ai de l'espoir. Hein. Voilà. Donc après, on nous jugera au résultat.
Donc ça, on se reverra dans un certain temps pour voir où on est chancelé.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, je ne peux pas être plus clair sur nos intentions, sur la volonté qu'on cherche à mettre en œuvre quotidiennement. Hein. En tout cas, j'espère que mes propos n'ouvrent pas de doute de ce point de vue-là. Après, on sera comptable de nos résultats. Hein. La démocratie, c'est fait pour ça. Hein, dans 4 ans, le temps passe vite. Hein, dans 4 ans, nos électeurs mesureront à l'aune de nos engagements ce qu'on a fait ou pas fait.
Je vais revenir un petit peu sur le côté un petit peu écologique, hein, parce que c'est important, des bâtiments qui ne soient pas des passoires énergétiques. Mmh. De nos jours, c'est quasiment impératif, d'autant que vous avez touché un peu d'argent de la Biovallée. Alors, est-ce que vous allez utiliser des matériaux, des techniques de construction qui vont faire que ces bâtiments seront adéquats du point de vue de cette transition énergétique ?
Moi, j'avoue. Alors après, hein, on n'a pas voulu non plus... Alors, c'est peut-être ce qui fait la petite retenue par rapport au label éco-quartier, c'est qu'on n'a pas voulu imposer aux opérateurs sociaux et privés un type de bâtiment type ossature bois, par exemple. Hein. Mais je rappellerai quand même une chose, hein, c'est la RT 2012, les nouvelles normes d'isolation thermique et phonique qui s'imposent maintenant à toute personne qui construit. Hein. DH va construire dans le respect de ces normes-là, de ces normes nouvelles-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une première contrainte. Maintenant, moi, je ne vous cache pas qu'à chaque fois qu'on rencontre des opérateurs privés, et de ce point de vue-là, on va rencontrer prochainement un opérateur privé qui, lui, fait que de l'ossature bois. Et moi, je ne vous cache pas que je suis très sensible à ce type d'habitat. Parce que vous évoquez l'écologie. Moi, je crois que souvent, quand on évoque écologie, on évoque économie d'énergie. Bon, je crois que l'écologie... Enfin, je ne me prétendrai pas écologiste, mais en tout cas, de mon point de vue, quand on parle de ça, on parle du confort de celui qui habite le logement, d'une part.
Et du portefeuille. Hein ?
Oui, on est d'accord, je l'ai dit ça. Mais n'oublions pas le plaisir d'y vivre, le plaisir d'y vivre, et puis l'impact environnemental. Parce que ça, on pourra raconter ce que l'on veut. Je crois que je suis de ceux qui soutiennent les tendances, tant en termes de développement de logement que d'autres développements, on doit être soucieux de tout ça maintenant à l'avenir. D'ailleurs, on parle de développement durable, notre action s'inscrit dans le développement durable. Voilà, hein, c'est-à-dire préservation de l'environnement, cohésion sociale, développement de l'activité, tout ça doit se combiner de telle sorte que ça soit cohérent et durable. Voilà.
Pour terminer, car je crois qu'on a fait un petit peu le tour, à votre avis, donc, quand peut-on espérer pouvoir habiter dans ce fameux premier lotissement ?
D'après DH, hein, il faut quand même qu'on se fie aux experts. Donc, les travaux commencent 2016. On peut espérer, c'est quand même un gros bâtiment, hein, donc le temps des travaux, ainsi de suite. D'après ce que j'ai compris, on pourrait espérer y habiter au mieux, à l'été 2017, au pire, fin 2017, début 2018. Alors, ça paraît toujours trop long. Hein. C'est vrai que les gens avec qui j'en discute me disent « Oh là, oui, bon... » Ben oui, mais bon, je crois que malgré tout, donnons acte qu'on commence quelque chose de concret. Hein, et que tous ces sujets-là, malheureusement, ou heureusement, parce que il vaut mieux prendre plus de temps pour construire et le faire de manière respectueuse des règles, notamment d'isolation.
Hein, ça évite les malfaçons, peut-être.
Ça évite aussi, probablement, les malfaçons. Donc, prenons le temps qu'il faut pour bien construire et de manière durable, hein, avec un impact environnemental qui soit le plus faible possible, et acceptons l'augure que là, c'est quand même du concret qui est devant nos yeux. Alors, l'impatience est là parce que le déficit est là, hein, mais je crois qu'on est engagé dans un processus, me semble-t-il, hein, vertueux.
Voilà. Les tarifs pratiqués par DAH lui appartiennent. Vous avez un mot à dire là-dessus ?
Non, enfin... En tout cas, pour l'instant, Drôme Aménagement Habitat est maître de sa gestion. On n'a pas vocation à s'immiscer. D'ailleurs, hormis la commission d'attribution Nous ne siégeons pas à DH, et la commission d'attribution, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre instance. Non, non, non. Très clairement, pour l'instant, nous n'avons pas d'immixion dans leur politique de tarification, ou voire même d'occupation des locaux. Non. Par contre, peut-être une remarque sur ce point qui me revient à l'esprit, si quand même, c'est important. Nous avons souhaité, puisqu'à l'origine, ce premier bâtiment était destiné à des personnes âgées, nous avons souhaité qu'il soit intergénérationnel. Nous avons obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'il ne sera pas réservé qu'à des personnes âgées d'une part. D'autre part, nous avons souhaité quand même qu'il soit bien pris en compte, notamment les gens qui ont été sortis de la barre qui a été détruite. Voilà, ça c'est une expression que nous avons formulée à M. Villard.
Dernière petite...
mais encore une fois, c'est une entreprise qui a son indépendance, qui a sa propre gestion, et tout cela doit être respecté. C'est notre sensibilité.
Une petite dernière question. J'imagine les premiers occupants de ce lotissement s'installer, mettons, début 2018. Verraient-ils, au fur et à mesure que des lotissements nouveaux naissent de terre, des années de travaux ? A-t-on pensé à l'aménagement autour de ces bâtiments avec des pelouses, des petits bosquets, voire des bancs pour s'installer ? Tout ceci est pris en compte aussi ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez toujours... consulter tout ça à la mairie. Ça, je vous le rappelle, c'est toujours consultable. Je vous rappelle que la mairie, c'est la maison des citoyens et que s'ils voulaient avoir un éclairage sur ce projet, qui a d'ailleurs fait à l'époque, sous la mandature précédente, l'objet de réunions publiques, avec une maquette d'ailleurs, qui aujourd'hui est dans le bureau du maire, mais s'il le fallait, par besoin, le redescendrait dans le hall. Donc, toute la partie, j'allais dire, paysagère du projet a été réfléchie. D'ailleurs, au centre, au cœur de cet espace, il y a un grand espace vert avec un petit cours d'eau. Enfin voilà. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a essayé. Alors, s'y rajoutent également des notions de cheminement doux qu'on a approfondi avec nos collègues d'ailleurs du conseil municipal, qu'on a tenté d'approfondir sur des remarques tout à fait fondées, me semble-t-il, en ce qui me concerne, d'associations comme le collectif vélo, par exemple, où il fallait insister et mieux mettre en valeur ce qui permettait aux piétons et aux cyclistes notamment de circuler. Donc on a essayé véritablement de prendre en compte le maximum de remarques. Ça, c'est des aménagements qui sont venus en complément du projet précédent. Donc tant du point de vue paysager que du point de vue de la circulation, on a souhaité également que cette zone qui va quand même, au bout du compte, et in fine, rassembler 270 logements, je vous laisse imaginer, à 2 ou 3 personnes par logement, c'est quand même 700-800 habitants de plus sur notre ville, ou en complément, enfin, à définir. Donc, voilà, il va falloir être extrêmement... ne pas reproduire peut-être ce qu'on connaît à d'autres endroits de la ville. Il faut que les voitures, les piétons, les cyclistes cohabitent harmonieusement.
Monsieur Feuilleten, pour terminer, justement, ces renseignements dont vous parlez, la maquette et puis d'autres renseignements pour que les gens puissent s'informer, sont-ils disponibles sur le site de la mairie ?
Alors, vous me posez une colle, il faudra que je le vérifie. Mais si tel n'est pas le cas, je demanderai à ce qu'on le mette en ligne. Je serais tenté de dire oui, mais je ne suis pas sûr.
Très bien. En tout cas, si d'aventure je pouvais bénéficier de ces liens, je les mettrais sur la page de l'émission.
D'accord.
En tout cas, je vous remercie d'être passé pour nous renseigner, car c'est effectivement le logement, c'est fondamental, je peux vous le dire. Ça faisait 6 mois que je cherchais et j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur 10. Donc ça concerne beaucoup, beaucoup de citoyens. Je vous remercie d'être passé, d'avoir accepté de se prêter au jeu de l'information du citoyen. Et je vous attends donc en mars, on s'est donné rendez-vous pour parler du budget primitif.
Bon, je me suis fait coincer, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir. Moi, je vous remercie, c'est vous que je remercie de m'avoir invité. Voilà.
Eh ben, je vous souhaite une bonne continuation, Monsieur Feuilleten. Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.